Nous pouvons à présent passer la parole à Monsieur Ibrahim Evrim, secrétaire général de la ville de Gaziantep, à nous présenter le point de vue de cette grande municipalité du Sud-Est.
Bonjour à tout le monde. C'est difficile de suivre le débat après le déjeuner, mais j'essaierai d'être bref. J'essaierai de raconter ce que la ville de Gaziantep fait en matière de relations internationales, tout en faisant la promotion de ma ville. C'est une ville avec 1 500 000 d'habitants. C'est une très ancienne ville qui, je ne sais pas la date exacte, située sur la Mésopotamie et sur la rivière Euphrate. C'est les fameuses mosaïques de Zeugma, que vous voyez, que c'est le symbole de Gaziantep, c'est le Mona Lisa en mosaïque de l'Antiquité. C'est vrai, ça vous suit où vous partez, c'est incroyable qu'ils ont pu faire un tableau pareil avec les yeux objectifs. Vous pouvez continuer. Quand même, nous sommes anciens, mais nous avons des aspects modernes. Nous n'arrêtons pas de développer notre infrastructure urbaine avec des passages comme ça. Nous avons une citadelle au centre de la ville qui date de 1500 années d'histoire. Et autour de cette citadelle, nous rénovons tout ce qui est historique comme héritage culturel. La ville est la sixième plus grande ville de la Turquie en matière de population. Mais c'est la quatrième au niveau industriel. Nous exportons dans 152 différents pays du monde à peu près 3 milliards de dollars de produits fabriqués dans nos usines. C'est une ville qui essaie d'être se concentrer sur les enfants. Nous construisons des parcs entiers comme ça pour que les enfants qui viennent de partout puissent s'amuser sans peine, sans facilement dans la ville. Et nous avons le seul parc d'amusement de la Turquie qui est terminé. Et c'est une ville qui était située, vous pouvez continuer, donc on ne perd pas de temps. C'est une ville située sur la route de soie. Et nous avons énormément de caravansérails, de médressés, de mosquées que nous avons tous pratiquement rénovées avec les fonds européens. Je remercie ici ouvertement à l'Union européenne qui quand même fait quelque chose. Nous avons su s'en servir de l'aide de l'Union européenne. Vous voyez les photos des maîtresses des caravansérails que nous avons rénovés et nous les transformons, nous les utilisons comme restaurants, comme des hôtels, boutiques, etc. Voilà. Et nous sommes la capitale de la meilleure cuisine de la Turquie ou de la région, parce qu'on parle de la cuisine française, on parle de la cuisine chinoise, italienne, etc. Mais la cuisine de Gaziantep, c'est une cuisine aussi importante que tout ça. C'est les meilleurs baklava, les meilleurs kebabs, etc. Nous avons des marchés comme ça, traditionnels, que les touristes aiment beaucoup, apprécient beaucoup, où il y a le cuir, tout ce que vous voulez trouver des anciens temps. Les artisanats perdus à peu près sont là, présents là-bas. Voilà un caravansérail que nous avons récemment restauré. Voilà. Et nos enfants. Nous faisons tous pour leur bien, pour leur futur. C'est une ville qui essaye vraiment d'être, comment on dit, child-friendly city. Çocuk dostu kent olmak istiyoruz. Voilà. On a cherché le mot en français. Voilà les baklava. On vous invite tous. En matière avec la coopération européenne, je vous ai dit, nous avons tout d'abord essayé d'ouvrir un bureau qui s'occupe uniquement des affaires européennes et nous avons engagé les meilleurs jeunes que nous avons pu trouver dans la région. Et au bout de 2 ou 3 ans de travail comme ça, ils ont fait pas mal de progrès. Ils ont su quand même nous trouver des fonds nécessaires pour rénover la ville, pour restaurer tout ce qui est héritage culturel et tout. Mais finalement, nous avons constaté que nous avons créé une petite bureaucratie privilégiée dans un bureau qui parle une autre langue que les autres. Et tout, nous avons compris que ça n'allait pas comme ça. Nous avons changé de concept. Maintenant, depuis pratiquement 1 an, nous engageons des jeunes bilingues, trilingues, aussi brillants qu'eux, mais nous les mettons dans tous les départements, différents départements, nous en avons 22, qui sont responsables des liaisons de leur département avec l'Europe. Donc, ça nous a beaucoup aidé. S'il y a un appel sur un sujet quelconque, nous avons un expert qui connaît l'histoire. Donc, ça nous a servi. Avec la ville de Paris, par exemple, nous sommes en coopération pour améliorer le transport urbain à la ville d'Alep en Syrie et la ville d'Amman en Jordanie et la ville d'Irbit en Jordanie. Et nous sommes en coopération avec la ville de Paris, la ville de Stuttgart. Et devinez qui est le leader du projet qui coûte 850 000 euros quand même, c'est Gaziantep. Parce que nous sommes sur la frontière et nous connaissons bien les endroits. Et comme ça, nous pouvons aider à échanger les meilleures expériences. Donc ça, c'est une... C'est un très bel exemple de coopération que les villes sont capables de faire. C'est une ville aussi qui utilise très bien les jumelages. Nous sommes en jumelage avec la ville de Karlstad de Suède, avec qui nous avons développé des projets surtout sur le risk management pour intégrer le concept de risque naturel ou pas naturel, dans la planification urbaine. Donc, ça nous a beaucoup aidé et nous avons formé non seulement la ville de Gaziantep, mais toutes les petites municipalités dans la zone du sud-est jusqu'à Midyat, par exemple, de Mardin. Et avec la ville de Duisburg, nous sommes en jumelage. Ça, avec les Allemands, nous faisons beaucoup, beaucoup de projets dans le domaine culturel. Nous échangeons des troupes de théâtre, etc. Les théâtres allemands, les joueurs viennent, les artistes viennent, ils s'expriment en turc, en Turquie. Et nos Turcs vont là-bas pour faire le théâtre en allemand, par exemple, des jeux comme ça, ça aide beaucoup. On échange des jeunes étudiants, etc. Et comme il y a une forte communauté turque dans cette région-là de Duisburg, de temps en temps, pendant les élections surtout, ils nous ont appelés pour aider à leur propagande. Donc nous avons fait ça avec beaucoup de joie. Et avec Hollande, la ville de Nijmegen, Nous avons réussi à monter des coopérations entre les universités et tout pour aider à lutter contre l'usage de drogue, comme le Pays-Bas a développé pas mal d'expertise dans ce domaine. C'est vrai, c'est sérieux, donc on rigole, mais qu'est-ce que vous voulez, ils savent quoi faire. Ils ont tout d'abord laissé libre les choses. Maintenant, ils essayent de récupérer, mais ils sont bien à l'avance par rapport à nous. Donc, on a quand même des projets très importants pour établir des établissements sanitaires et hospitaliers pour lutter contre ça. Donc, en Europe, ça va comme ça. Nous n'avons aucun lien avec la France, ce qui est regrettable. J'aimerais bien être en jumelage avec une ville de notre taille, pratiquement de notre taille. Donc c'est à Béatrice de s'en occuper, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous mettre en rapport avec une ville française, nous aimerions bien avancer les échanges, les meilleures expériences. Et je vais juste vous raconter une petite histoire de réussite quand même. Vous avez parlé de la diplomatie des cités, des villes, qui devient très important vraiment, parce que vous connaissez nos relations avec la Syrie il y a une dizaine d'années, c'était vraiment pénible. Et là, juste il y a 7 ans à peu près, nous avons établi le jumelage avec la ville d'Alep et les échanges ont commencé. Et dans pratiquement tous les domaines qu'on puisse imaginer, les constructions de routes, des trottoirs, des parcs, etc., tout ce qui est technique et de service. Et avec la multiplication de ce genre d'échanges, nous avons finalement pu contribuer à l'amélioration générale des relations entre la Turquie et la Syrie. Et maintenant, comme vous avez dû entendre, les visas entre les deux pays sont annulés. Vous pouvez passer les frontières sans visa. Et c'est bien. Ça couvre, disons, ça aide à propager les principes européens dans les pays limitrophes, parce que avec le projet que nous mènerons à la ville de Paris, par exemple, c'est les principes de l'environnement seront bien introduits dans ces pays-là. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout. Donc finalement, les administrations locales jouent vraiment un rôle beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique et facile si on le laisse faire, ce qui est de tendance. La Turquie aussi essaie de laisser les voies libres pour les administrations locales. Enfin, l'intention est là. Ça va améliorer dans les prochaines années, je pense. Et en coopération générale entre la France et la Turquie, les deux pays ont beaucoup à apprendre de chacun. Nous avons, par exemple, fait nos réformes très récemment. C'était silencieux, mais c'est fait. Nous avons, par exemple, réduit le nombre des municipalités à une quantité plus gérable. Nous avons annulé des petites municipalités, moins de 5000 habitants, etc. Maintenant, nous avons 3000 à peu près. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. 3000 municipalités en Turquie. Et combien vous en avez en France ?
36 000.
Bravo. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Evrim, pour avoir souligné l'importance des coopérations décentralisées dans le domaine de la construction d'une histoire commune à travers la valorisation des héritages culturels, donc à Alep, mais aussi donc d'avoir évoqué la question de la diplomatie des villes et de voir comment la coopération décentralisée peut être un opérateur de redéfinition des liens avec l'environnement étranger proche. Madame Engin a évoqué la Bulgarie tout à l'heure, mais là on pourrait voir dans le cadre des relations entre la Turquie et la Syrie, le rôle joué par Gaziantep. Ce qui fait bien l'articulation avec ce qu'on a évoqué de manière générale dans la table ronde précédente sur la redéfinition de la politique étrangère turque et la normalisation des relations avec les pays voisins qui cessent d'être diabolisés. On sort d'une vision un peu obsidionale, du territoire. Je souhaite à Gaziantep de trouver un partenaire français rapidement. Je pense que vous n'aurez pas de mal. Voilà. Voilà. Nous pouvons, après Gaziantep, écouter maintenant l'expérience de la ville de Rennes, donc avec Madame Roselyne Lefrançois, déléguée au partenariat et aux relations internationales de la ville de Rennes, et qui va nous parler de la l'ancienne collaboration avec Diyarbakır. Merci.
Merhaba. Bonjour à toutes et à tous, et merci Monsieur Pérouse de nous permettre de parler de cette coopération entre la ville de Rennes. Je suis maire adjoint à Rennes, en charge des partenariats et des relations internationales. Rennes, c'est la capitale de la Bretagne, c'est le point le plus, je pense, à l'ouest de l'Europe. J'allais dire la première chose quand on réfléchit sur l'état des lieux de la coopération entre la ville de Rennes et la ville de Diyarbakır. C'est heureux d'ailleurs que nous soyons voisins, puisque nous déjeunions côte à côte ce midi et nous étions la ville de Gaziantep et la ville de Diyarbakır en lien avec la ville de Rennes. Vous voyez que ce sont des hasards. Je crois qu'il n'y a jamais de hasard. Il y a des coïncidences heureuses et vous en faites partie. Et donc ces relations entre nos deux villes ont commencé il y a 30 ans. Diyarbakır, c'est une ville d'un million d'habitants. Ça fait partie aussi des 16 grandes métropoles que vous évoquiez. Et c'est une ville aussi de caravansarai et donc sur la route aussi de la soie que vous évoquiez. Ces relations ont commencé il y a 30 ans parce que en 1978, sous le mandat d'Edmond Hervé, qui était maire depuis un an, il a répondu à l'appel à la solidarité du premier maire kurde de cette ville, qui était à l'époque Medizana. Et il y a répondu par un don de bus. Il y avait 5 bus de Rennes qui ont été donnés à la ville de Diyarbakır. C'était déjà une question de gestion urbaine. C'était développer effectivement un système de transport en commun puisqu'il y avait un déficit et que c'était le souhait du maire. Depuis, je pense, on peut le dire, les relations n'ont jamais cessé. Et de ces échanges, bien qu'il n'y ait pas eu forcément des projets chaque année, mais il y a toujours eu des prises de position sur les droits de l'homme, des réactions aussi au niveau des emprisonnements successifs, je pense, dans cette partie de la Turquie. De ces échanges, il y a eu une volonté, effectivement, d'engager une coopération concrète dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine en particulier du logement et en particulier du logement social et aussi du patrimoine, parce que, comme votre ville, c'est une ville aussi qui est riche d'un passé patrimonial. Alors, après des visites thématiques préparatoires en 2005 et 2006, un projet de coopération technique entre les deux villes a été élaboré et il a été présenté pour financement au ministère des Affaires étrangères en 2007-2008. En quoi consistait-il ? Il consistait en un transfert d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'aménagement et des opérations d'urbanisme, de logement social, de réhabilitation et aussi de valorisation du patrimoine. De façon connexe, la question évidemment des transports et du traitement des déchets ont été aussi bien sûr abordées. Hein, évidemment, on est bien dans une démarche de développement durable. Il a débuté en 2008 par une mission rennaise de diagnostic, ainsi que par l'accueil de nombreux responsables de la ville de Diyarbakır dans les services municipaux rennais. Et je salue d'ailleurs la présence de Danielle Fourdan, qui est directrice générale des services, parce que sans l'administration municipale, on peut avoir une volonté politique, on ne peut pas fonctionner. Et évidemment, un certain nombre aussi de leurs partenaires, de bailleurs sociaux, de sociétés d'économie mixte qui ont été accueillis. Des résultats effectivement très concrets ont déjà été atteints, puisque cette coopération a conduit notamment la ville de Diyarbakır à modifier ses conceptions de l'aménagement urbain, à restructurer ses services. En effet, une équipe chargée de la mise en œuvre des projets urbains a été constituée et composée, et je le souligne parce que c'est un des points qui a été tout à fait mis en avant ce matin, par des jeunes urbanistes accueillis, en particulier des jeunes femmes architectes en stage à la ville de Rennes, durant un mois fin 2008. Vous voyez que ce dialogue est essentiel. Et ces échanges intervenus en 2008 ont permis de définir les projets sur lesquels une action d'assistance à maîtrise d'ouvrage pouvait être entreprise. Ces réflexions ont abouti au montage d'une convention tripartite qui a été signée très récemment, puisque c'est le 16 octobre dernier, entre l'Agence française de développement, la ville métropolitaine de Diyarbakır et la ville de Rennes pour justement la réalisation d'une étude stratégique aménagement urbain et logement. Et j'étais moi-même, je conduisais une délégation rennaise cette semaine, puisque lundi, mardi, mercredi, j'étais à Diyarbakır. C'était la deuxième fois que j'y allais. Je m'y étais rendue en 2000 et j'ai pu mesurer tout déjà le chemin parcouru. Et je pense que c'est cela qu'il faut tout à fait mettre aussi en évidence. Alors bien sûr, la question que vous m'avez posée en préparant cette table ronde, c'est quels sont les facteurs déclencheurs? Qu'est-ce qui vous amène à travailler effectivement sur cette idée? Comment on prend une initiative? Eh bien, je pense que ce qu'il faut mettre en avant dans ce genre de partenariat, c'est trois choses. C'est d'abord le temps, c'est d'abord la confiance, c'est aussi la ténacité, parce que ce sont les éléments déterminants fondamentaux. La confiance, en effet, elle s'installe dans des relations qui sont suivies. Pour notre part, ça fait plus de 30 ans. Mais je pense que c'est parce que aussi on a noué des amitiés qu'on a envie de travailler aussi avec des femmes et des hommes. Mais l'élément, je pense, déclencheur pour la mise en œuvre de la coopération en gestion urbaine a été la conjonction de deux facteurs. D'une part, d'abord, la volonté du nouveau maire, Osman Bey Demir, qui est un avocat, qui est vraiment un militant pour le développement de sa ville, à rechercher notamment des financements européens, mais aussi à s'enrichir d'expériences étrangères. Ça, c'est le premier facteur que je veux tout à fait souligner. Et le deuxième facteur, c'est qu'au même moment, en 2005, le ministère des Affaires étrangères français a incité les collectivités françaises à engager des coopérations avec leurs homologues turcs. Évidemment, Rennes, qui avait déjà une pratique avec des échanges en gestion urbaine, je pense notamment à la ville de Poznań en Pologne, je pense à la ville de Brno en République tchèque, à la ville de Sibiu en Roumanie ou à Hue au Vietnam. Évidemment, la ville de Rennes s'est tournée naturellement, j'allais dire, vers la ville qu'elle connaissait déjà, vers Diyarbakır. Je voudrais revenir sur cette notion du temps. L'action qui est en cours est le fruit d'échanges qui ont débuté en 2005. La définition précise des contours du projet 2009-2010 a pris du temps. En effet, les projets d'une ville sont nombreux. Ils sont divers. Il faut donc, par définition, des moyens. Et on sait que les moyens des partenaires sont limités. Donc, il faut trouver des solutions. Et puis, la définition des priorités de la ville de Diyarbakır, l'appréhension de la faisabilité par l'identification des différentes contributions possibles, c'est un exercice qui prend du temps. Mais il faut, bien sûr, rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, une motivation partagée, une volonté politique d'aboutir, qui sont évidemment aussi des facteurs essentiels. J'insiste beaucoup sur les relations humaines parce que je pense qu'elles sont tout à fait déterminantes et essentielles. Et puis, on a aussi beaucoup de chance dans cette ville de Diyarbakır. On a une personne qui est responsable des relations internationales, qui en est la directrice, qui est parfaitement francophone. Elle est née en Belgique, Ebru Okken. Elle est, elle a vécu en Allemagne, elle a vécu aussi en Suède, et elle est depuis 6 ans. Elle s'est mariée avec tout simplement un Turc d'origine de Diyarbakır et elle travaille à la ville de Diyarbakır. Et c'est vrai que c'est une chance exceptionnelle parce que elle connaît, j'allais dire, la France, elle connaît la Belgique, elle connaît l'Allemagne, elle connaît la Suède. Elle a parfaitement conscience que l'avenir est en Europe et elle a cette connaissance effectivement de la Turquie par aussi, bien sûr, ses relations familiales. Et puis, au-delà de ces éléments généraux qui sont indispensables à toute relation de partenariat et à la conduite de tout projet, l'intervention de l'Agence française de développement s'est révélée, évidemment, particulièrement précieuse, j'allais dire, à plus d'un titre. En effet, bien sûr, par le soutien financier qu'elle apporte, l'intervention de l'AFD a rendu la réalisation de ce projet possible. Évidemment, c'est essentiel. Pour autant, et dans le contexte turc, cette intervention a également permis de mieux saisir les modalités de fonctionnement des relations entre l'État turc et les organismes avec les collectivités locales turques. Et ça, c'est indéniablement fort, parce que si on ne comprend pas dans le logement, par exemple, le rôle que peut jouer le TOKİ, on a absolument un des pans, bien sûr, d'incompréhension, puisqu'il y a d'une part l'État à travers le Toki qui développe un habitat. Oui, précisez-le si
donc
vous voulez.
Oui. Hein? C'est l'administration du logement collectif qui est une agence centrale hein, et qui définit toute la politique de logement hein, à l'échelle de l'ensemble de la Turquie, qui est déclinée ensuite localement. Hein, mais c'est vraiment un acteur qui a un rôle fondamental dans la politique actuellement de logement. Hein, tendance quand même qui est un peu contradictoire avec le processus de décentralisation administrative par ailleurs hein, en cours.
Ben oui, parce que je pense à la ville de Rennes qui est engagée dans une coopération avec le Mali, par exemple, sur le plateau d'Ogon. On se rend bien compte qu'on a une décentralisation et on a une discussion, évidemment, avec des intervenants qui sont dans le contexte de la décentralisation. Alors que là, on a des juxtapositions. Donc c'est extrêmement différent parce qu'il faut bien comprendre le rôle central de l'État qui est indispensable évidemment à prendre en compte, mais le partenariat français qui est établi entre la ville de Rennes, l'AFD, a permis aussi des échanges qui sont indispensables entre tous les acteurs concernés qui doivent bien sûr agir en cohérence et en concertation. Alors la question que vous m'aviez posée, c'est quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes heurté? Oui, peut-être après, dans le deuxième point. Je m'arrêterai là, juste en vous disant que dans l'introduction, vous aviez parlé de la diplomatie des villes et vous aviez parlé de l'historique de la coopération décentralisée. Je crois, au moment de cette conclusion de première partie, je crois que c'est très important de rappeler que la coopération décentralisée doit faire partie intégrante de la stratégie, évidemment, d'un programme municipal. C'est essentiel et qu'elle doit tout à fait avoir un appui sur l'administration municipale parce que c'est par les échanges de savoir-faire et d'expérience que les choses peuvent progresser. Mais en aucun cas, la diplomatie des villes ne s'oppose à la diplomatie d'État. Elle est très complémentaire, elle est très nécessaire et je pense aussi qu'elle fait tout à fait progresser, bien sûr, la construction européenne. C'est parce que l'on se connaît, parce que l'on a envie de travailler ensemble, que des projets de cette envergure peuvent se mettre en place.